Nous allons lire dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous prenons aussi Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, notre thème c'est l'homme nouveau et s'inspirer du souci qui se manifeste dans la vie chrétienne où parfois on veut prier mais on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de lire la parole, bref, on n'a pas envie des choses de Dieu. Et une fois nous avions prêché, nous avions expliqué que le plus important dans les choses de Dieu, c'est la soif et la faim. Parce que si on a soif et faim, on va manger. C'est logique. Mais quand on n'a pas soif et faim, on a beau forcer les choses, on tombe dans la religion. Quand on n'a pas soif de prier, on n'a pas soif de lire la parole, on peut toujours forcer les choses. Parfois, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Mais souvent, c'est on force, mais dans une logique de tristesse. On est triste, on ne se sent pas bien, parce qu'on n'arrive pas, entre guillemets, à assumer cette vie chrétienne qu'on a. On se dit, mais je ne suis pas un bon chrétien, je ne fais pas ceci comme il faut, je ne fais pas cela comme il faut, je ne prie pas assez, je ne lis pas la parole assez, je ne prie pas avec les frères suffisamment, et plein de choses deviennent des plaintes devant le Seigneur et on a une vie triste. Et ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés à la joie. S'il nous donne le commandement de 1 Thessaloniciens 5:16, soyez toujours joyeux, c'est qu'il y a des raisons d'être joyeux. Et le Seigneur nous a communiqué tout cela. Si nous n'arrivons pas à être joyeux, c'est parce que nous ne vivons pas la vie nouvelle que Christ nous a donnée. Et on se dit, mais j'aimerais tant prier, j'aimerais tant faire ceci. Mais pourquoi tu ne fais pas ce que tu aimerais faire, qui est agréable au Seigneur? C'est parce qu'il n'y a pas la soif, il n'y a pas la faim. Et pourquoi il n'y a pas la soif? Pourquoi il n'y a pas la faim? Parce que beaucoup vivent encore dans une logique ancienne. C'est ça le thème de ce soir. Nous voudrions expliquer que le plus important, c'est de faire un choix clair et net par rapport à sa vie. Savoir pourquoi nous avons choisi Dieu. Dans quel objectif tu es venu au Seigneur? Est-ce que tu es venu au Seigneur pour qu'il te donne l'intelligence, l'argent, ou bien qu'il fasse de toi un bon chrétien, ou bien pour que tu réussisses un ministère quelconque? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi suis-je venu au Seigneur? Parce que ce sont ces objectifs-là qui vont faire de toi un chrétien véritable ou pas. Si les objectifs sont déjà faux, le départ est déjà faussé. Et c'est pourquoi beaucoup se retrouvent toujours dans une sorte de tristesse dans la vie chrétienne, parce qu'ils ne vivent pas la vie nouvelle. Parce que si Dieu nous a sauvés, c'est pour qu'on ait la joie. Si on n'a pas la joie, c'est qu'il y a un problème. Et le problème souvent, c'est que on se dit, mais je ne prie pas, je ne lis pas la parole, je ne suis pas nourri. Mais c'est parce que, pourquoi tu n'as pas soif, pourquoi tu n'as pas faim? Parce que tu ne vis pas la vie nouvelle. Bien-aimé, si nous prenons un homme mort, c'est un homme qui est mort, un cadavre n'a pas soif, n'a pas faim. Et comme il n'a pas soif, il n'a pas faim, on ne le nourrit pas. Et comme on ne le nourrit pas, il est mort et il continuera à mourir davantage. Ce qui nous empêche souvent d'avoir une vie pleine, c'est le manque de soif et le manque de faim. Et qu'est-ce que ça va conduire? Ça va conduire au fait que tu ne vas pas te nourrir. Quelqu'un qui n'a pas faim de la parole, il ne va pas lire la parole. Quelqu'un qui n'a pas faim de prier, il ne va pas prier. Quelqu'un qui n'a pas faim de la communion fraternelle. Nous avions expliqué autrefois à partir de l'acte 2.42 que la communion fraternelle, ça fait partie des piliers pour te faire vivre. Quelqu'un qui n'a pas faim de ça, il ne va pas vivre ça. Il va trouver toutes les raisons possibles pour ne pas participer à la communion fraternelle. Quelqu'un qui n'a pas faim de la fraction des pains, la Sainte Cène, il n'en aura pas non plus. Il n'utilisera pas ça, il n'en usera pas. Or, ce sont des choses que Dieu a placées pour rendre notre vie agréable. La parole, les frères, les sœurs, la prière, la fraction des pains, la communion fraternelle, et toutes sortes d'autres choses, comme par exemple le fait d'intercéder pour d'autres, le fait d'évangéliser. Ce sont des nourritures que Dieu nous a déposées pour rendre notre vie chrétienne agréable. Et lorsqu'on ne se nourrit pas de cela, de l'évangélisation, on ne se nourrit pas de la prière, on ne se nourrit pas de la parole, on ne se nourrit pas de la communion fraternelle, lorsqu'on ne se nourrit pas de la vérité, lorsqu'on ne se nourrit pas, bref, du ciel, des objectifs du Seigneur, du royaume des cieux, c'est vrai que notre vie commence à mourir. Et quand ça meurt, ça produit la tristesse, ça produit des confusions, ça produit des complications, on ne se sent pas bien. Ça produit parfois des incompréhensions. Parfois, Dieu est totalement avec toi, toi tu ne le sais pas. Pourquoi tu ne le sais pas? Parce que tu n'es pas en phase avec la logique de Dieu. Dieu est à côté, mais toi tu le sens très loin. Et tout ça, ça nécessite avoir une bonne santé spirituelle pour saisir que Dieu est à côté de toi. Ça nécessite d'avoir une bonne santé spirituelle pour manifester la joie. Mais comment tu vas avoir une bonne santé spirituelle si tu ne manges pas, si tu ne bois pas? Il faut donc par conséquent avoir la soif. Et comment avoir la soif? C'est définir tes objectifs. C'est très important. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas soif de boire, qui n'a pas soif de manger, ne grandira pas du tout, ne sera jamais satisfait, ne sera pas dans la joie. Et cette soif-là vient du fait que, quand maintenant il y a la soif et la faim, ça vient de quoi? Ça vient du fait que ta vie physique veut vivre. Puisque ta vie physique veut vivre, elle réclame de manger. elle réclame de boire. Si ta vie physique ne veut plus vivre, elle ne va pas penser à la nourriture. Elle ne va pas penser à la boisson. C'est ce qui se passe pour certains qui atteignent un certain degré de maladie. Ils sont dégoûtés, ils ne veulent plus vivre. Et en général, quand ils ne veulent pas ainsi vivre, ils ne veulent pas non plus se nourrir. Ils ne veulent pas non plus boire. Parce que c'est des choses qui sont contraires au fait de vouloir mourir. Et c'est ce qui se passe avec nous. Lorsque nous, notre corps spirituel ne réclame plus la nourriture, ne réclame plus la boisson spirituelle, il est en train, en réalité, de mourir. Et notre dossier d'aujourd'hui, c'est de dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton corps spirituel, ton être spirituel, tout ton être, réclame toujours la parole, réclame toujours l'intercession, réclame toujours l'adoration, réclame toujours l'amour, réclame toujours la communion fraternelle, réclame la bienveillance, réclame le fait, vous savez, beaucoup de choses. Parfois, quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, c'est là que toi tu reçois la vie. Il est écrit, il y a plus de bien, de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais au début, ce n'est pas le cas. Au début, il peut y avoir plus de freins à donner qu'à recevoir. Mais quand tu as donné, le bonheur vient. Et ça permet que tu vives, ça permet que tu sois joyeux. Parce que la vie et la joie, ça va ensemble. La vie et la paix, ça va ensemble. La vie dont il est question, il ne s'agit pas d'une vie physique seulement, comme les tortues ou les escargots. Il s'agit d'une vie pleine de joie, de paix. Et c'est ce à quoi Dieu nous a destinés. Et qu'est-ce qui se passe souvent? On se retrouve sans faim, sans soif. Et parfois, on condamne Dieu. On dit, mais Dieu n'a qu'à me donner la soif, n'a qu'à me donner ceci, n'a qu'à me donner cela. On peut toujours prier, mais pas condamner Dieu. On peut toujours demander la soif à Dieu, demander la faim à Dieu. Mais c'est important que dans notre schéma, on comprenne que la soif et la faim sont plus importantes même que les choses. Parce que si quelqu'un n'a pas faim, n'a pas soif, même si on lui donne la nourriture, la boisson, il ne va pas manger parce qu'il n'a pas faim, il n'a pas soif, il n'a même pas le goût. Nous avons besoin de la soif et de la faim plus que même les choses. Et comme notre Père est bon, nous savons que quand nous avons soif, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne. Il dit dans Jean 7, Jésus dit que celui qui a soif vienne. Jean 7, 37 à 39. Car celui qui a soif, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Donc c'est tellement Dieu est bon. Donc nous sommes sûrs qu'il y aura toujours la nourriture et la boisson. Ce qu'il nous faut, c'est avoir soif et avoir faim. Mais comment tu vas avoir faim et tu vas avoir soif? Il faut que tu aies la vie spirituelle. Il faut que tu choisisses une vie qui va réclamer cette faim, qui va réclamer cette soif. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui priait parce que ce qui l'intéressait, c'est d'être riche. Mais dès qu'il est riche, il ne va plus prier parce qu'il est déjà riche. La vie qu'il a ne réclame plus la prière parce qu'il a atteint ses objectifs. Mais quelqu'un qui priait pour sauver toute l'humanité, toute sa vie, il priera. Parce qu'il verra toujours l'humanité qu'il y a encore à sauver. Donc cette personne-là vit la vie spirituelle. Donc il faut permettre que la vie que tu as de spirituel vive si tu veux que ça réclame. Une voiture qui ne bouge pas ne réclamera jamais de l'essence. Donc le curseur sera toujours du côté de plein. Parce que la voiture ne bouge pas. Mais essaie de faire bouger la voiture pendant des kilomètres. À un certain moment, il y a un voyant qui s'allume, qui te dit, il faut mettre de l'essence. Donc, pour qu'il y ait la faim et la soif, il faut vivre cette vie-là. Si tu ne vis pas la vie nouvelle que le Seigneur nous a donnée, comme Paul dit, revêtez l'homme nouveau, tu n'auras pas non plus la faim et la soif. Si tu n'aimes pas une ville, tu ne prieras pas pour cette ville-là. Donc, pour vivre la vie chrétienne, nous avons besoin d'entrer dans des objectifs qui font vivre cette vie-là. Aujourd'hui, la vie chrétienne est triste pour beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas choisi que leur vie soit nouvelle. Ils sont encore dans l'ancienne vie et utilisent des moyens de la nouvelle vie. Quels sont les moyens de la nouvelle vie? C'est la parole, c'est la prière, c'est la communion fraternelle. Mais la nouvelle vie que nous avons reçue, c'est la vie du Seigneur. Donc dans la communion fraternelle, je considère que mes frères sont vraiment mes frères. Dans la parole, je considère qu'elle est vraiment une nourriture, c'est vraiment la parole de Dieu. Dans la prière, je me considère vraiment en connexion avec le Seigneur. Mais si je viens utiliser tous ces moyens dans mon ancienne logique, c'est-à-dire dans la chair, nous visions toujours les performances. Je vais prier parce que le bon chrétien doit beaucoup prier. Je vais lire la parole parce que ça va me donner la connaissance. Je vais devenir fort. Donc, tu es dans une logique ancienne, mais tu veux utiliser de nouveaux moyens. Ça ne va pas marcher. Nous avons besoin d'utiliser les nouveaux moyens avec une nouvelle vie, avec une nouvelle logique. C'est ce que Jésus a expliqué dans Matthieu 9, quand il a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des outres ancienne. Si on met du vin de nouveau dans des outres anciennes, ça se déchire, ça éclate. Et si on met un morceau de vêtement neuf sur un pan de vêtement ancien, ça se déchire. On ne peut pas mélanger les deux. Donc aujourd'hui, beaucoup continuent à vivre la vie ancienne en voulant utiliser les moyens de la nouvelle vie. Il veut être toujours honoré, mais il se dit, c'est la prière qui va m'honorer parce que Dieu m'élèvera. Donc, il prie. Il utilise des moyens nouveaux pour une ancienne vie. Or, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être humbles. Et dans cette humilité-là, c'est là que la gloire de Dieu va se manifester. Mais lui, il est chrétien. Il continue à prier parce qu'il veut l'élévation. Mais cette élévation-là, c'est une réaction de l'ancienne vie. Dans Romains 12, il est écrit, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé, mais par ce qui est humble. Quand tu es attiré par ce qui est humble, tu es dans la nouvelle vie. Quand tu es attiré par ce qui est élevé, tu es dans l'ancienne vie. Maintenant, tu vas prendre ton ancienne vie, utiliser les nouveaux moyens, ça ne va pas marcher. À un moment, tu vas te fatiguer, la prière va te dégoûter. Il y a la parole qui va te dégoûter. Tu vas préférer écouter la fausse parole qui va satisfaire ton ancienne vie. Parce que la vraie parole ne satisfait plus ton ancienne vie. La vraie parole t'appelle à la repentance, t'appelle à la transparence, t'appelle à la vérité, t'appelle à l'humilité. Donc elle va pas satisfaire ton ancienne vie et tu vas petit à petit dégoûter de cette vraie parole pour choisir des fausses paroles. C'est ce qui arrive à beaucoup qui dévient ou qui sont mécontents de la vie chrétienne parce que ils n'ont pas choisi ce qu'est la vraie vie nouvelle en Christ. Nous avons bien aimé besoin de faire un inventaire personnel, de dire qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je choisis comme vie nouvelle? C'est quoi la vie nouvelle dont il est question? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est l'élévation? Il faut faire un inventaire parce que c'est cet inventaire-là, ce sont ces objectifs-là qui feront que tu auras faim ou soif de la vraie parole, de la vraie prière, du vrai Jésus. Ça dépend de tout ça. Et quand tu es dans de vrais objectifs, tu auras soif du vrai Jésus, soif de la vraie parole, soif de la vraie communion fraternelle. Et ces choses-là garantiront ta vie chrétienne. Tu seras tout le temps joyeux, tu seras tout le temps en sécurité, tout le temps en paix parce que le Seigneur est avec toi. Mais quand on a choisi la mauvaise vie, eh bien, on a toujours des problèmes, on a toujours des conflits, parce que la vraie parole ne cadre pas avec cette vie qu'on a choisie. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens 4, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer aux mensonges ainsi de suite. » Paul dit quoi? Vous avez appris à vous dépouiller de l'homme ancien, du vieil homme, et qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Comment le puisque le vieil homme, il est à côté de nous. On peut le revêtir ou le laisser de côté. Et il explique comment le vieil homme fonctionne. Il se corrompt par des convoitises trompeuses. Il faut qu'on soit clair. Ça veut dire que le vieil homme a des objectifs trompeurs, des mauvais objectifs. Et ce sont ces objectifs-là qui le corrompent. Parce que quand quelqu'un veut devenir très riche, il est prêt à voler parce que c'est son objectif qui le corrompt. Son objectif le pousse à voler. Son objectif le pousse à aller prendre de la magie. Son objectif le pousse à faire des coups bas à quelqu'un d'autre parce qu'il a des mauvais objectifs. Et Paul nous exhorte à changer, à renoncer à ses objectifs, à ses convoitises trompeuses. C'est ça le vieil homme. Il se corrompt par cela. Alors que l'homme nouveau est à revêtir, verset 24, l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Alors que l'homme nouveau s'intéresse à l'image que Dieu a fixée dans la vérité de sa parole. Et cette image, c'est Jésus lui-même. Nous devons faire ce choix-là chaque jour. Quel homme nous voulons revêtir? L'homme nouveau ou l'homme ancien? En fonction de ce choix-là, nous expérimenterons la soif de la prière, la soif de la vérité, la soif de la vraie communion fraternelle, la soif de l'amour, ou alors la soif de la fausse parole. Des paroles flatteuses, des paroles qui t'élèvent, des paroles qui te caressent. La soif de la fausse prière, c'est-à-dire la prière incantatoire, où c'est la quantité qui compte. Ce n'est pas la vraie communion avec Dieu qui compte, c'est la quantité. J'ai prié une heure, deux heures, trois heures. C'est le flot de paroles qui compte, mais ce n'est pas le vrai échange avec Dieu. Et parfois, maintenant, ce sera la soif aussi de mentir. La soif de faire l'hypocrite. Parce que les convoitises que nous avons choisies nous amènent à cette direction-là. Nous devons choisir quel est l'homme que nous désirons. En fonction de cet homme-là, bien-aimé, vous allez vous rendre compte que vous aurez une vie agréable. Parce que quelqu'un qui a vraiment soif de Dieu, ce n'est pas Dieu qui descendra pour lui dire « Attention aux mauvaises compagnies. » Lui-même choisira, parce que à un certain moment, il y a des gens qui vont le pousser à faire le mal. Lui-même se rendra compte que même ça, ce n'est pas mon objectif. Ces gens-là m'amènent à ma perte. Moi qui suis pasteur, parfois sans involontairement, bien aimé, il y a des réactions où, sans que quelqu'un te parle ou bien que tu lises dans la Bible, tu réalises que tu dois échapper à cette voie-là. Tu refuses certaines collaborations parce que tu sens que ces collaborations-là risquent de t'amener à sortir de la voie de Dieu. Parce que dans ta tête, tu as fait ton choix. Ton choix, c'est le ciel. Ton choix, c'est telle chose. Même quand il y a les facilités qui viennent, on peut céder un tout petit peu, mais vient un moment où on se dit non, il y a des facilités de ce côté, mais ça m'amène dans l'objectif qui n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est la vérité, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. C'est important, bien-aimé, de faire cet inventaire-là dans notre vie. Quel est l'homme que tu as choisi? L'homme nouveau ou l'homme ancien? L'homme nouveau choisit l'amour. L'homme ancien choisit la justice des hommes. On m'a tapé, il faut qu'il y ait vengeance. Il faut que la personne qui m'a tapé, tout le monde le sache. Ça, c'est l'homme ancien qui veut toujours être justifié. L'homme nouveau accepte la mauvaise réputation. Il dit, Dieu lui-même me lavera de cette réputation-là. Je n'ai pas à me battre pour changer ma réputation. Moi, je continue à œuvrer dans la vérité et Dieu s'en occupera. C'est très important de définir l'homme nouveau. Si on ne définit pas l'homme nouveau, on continuera à utiliser le vieil homme et c'est ce qui produit des blocages dans notre vie chrétienne. Certains se disent, mais je n'ai pas envie de prier. C'est normal. Tu n'aimes plus tes voisins. Tu n'aimes plus les gens avec qui tu travailles. C'est pour ça que tu n'as pas envie de prier. Parce que si il y avait de l'amour pour ces gens-là, forcément, il y aura une poussée de prière pour eux. Tout ça est lié à ce qu'on a décidé que pour comme objectif, on a choisi comme objectif dans notre vie chrétienne. Les objectifs sont très importants. Ce sont les objectifs qui vont déterminer les moyens et le chemin. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas tourner en rond, tu vas te retrouver à n'avoir plus le goût de prier, à n'avoir plus le goût de lire la parole. Nous devons être attentifs. Paul dit dans Hébreux 12 que le péché nous enveloppe facilement, mais nous avons une force. La force que nous avons, c'est que Dieu est fidèle. Dieu étant fidèle, il va toujours nous rappeler, il va toujours nous secouer. Mais pour qu'en nous secouant, ça marche, il faut que notre choix soit le choix de Dieu. Il ne suffit pas que Dieu nous secoue. Il faut que notre choix soit son choix à lui aussi. C'est ce qui fera qu'en nous secouant, nous nous rebranchons sur la bonne voie. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Et nous lisons encore Colossiens, qui était le passage du début, au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Voilà le choix que Dieu nous fait. Si nous sommes des gens du ciel, nous devons avoir comme objectif les choses du ciel. C'est ce qui permettra qu'on ait une vie agréable ici sur terre. Je parle de la vie spirituelle. Cette vie spirituelle sera tellement agréable qu'elle pourra même calmer les difficultés, dompter les difficultés de la vie de la chair. Nous avons besoin de choisir les objectifs d'en haut. Combien de personnes ne sont-ils pas freinées par des amis parce qu'ils n'ont pas pris les objectifs d'en haut? Combien de personnes ne sont-ils pas freinées par leurs enfants parce qu'ils n'ont pas fait le choix? Souvenez-vous du Seigneur quand il disait, celui qui aime son père, sa mère, son mari, sa femme, plus que moi, n'est pas digne de me suivre. C'est par rapport au choix d'en haut. Parce que Jésus sait que quand tu ne fais pas ce choix-là, tôt ou tard, ces choses-là qu'il cite vont devenir une charge pour toi. Ça t'empêchera d'avoir soif de ce qui est bon pour ta vie spirituelle, de ce qui est bon pour ta vie du ciel, la vie nouvelle que le Seigneur donne. Les choix d'en haut, bien-aimé, c'est la foi. Alors que le choix de la terre, c'est un compte bancaire rempli. Et combien de personnes ont vraiment choisi la foi? C'est important, bien-aimé, de choisir de vivre par la foi. C'est comme ça que tu auras soif de prier. Si tu ne choisis pas de vivre par la foi, comment tu vas prier? Parce que comment on exerce la foi? En demandant. On exerce la foi en priant pour ce qu'on n'a pas. Mais quand on a tout, parce que dans notre manière de fonctionner, on a choisi la sécurité et non la foi, qu'est-ce qui va se faire? On va remplir tous nos placards. Tu remplis tous tes placards comme nos pays occidentaux. La France a des réserves de 15 ans, les États-Unis de 25 ans. Et toi aussi, dans ta maison, tu vas avoir des réserves de 2 mois. Et tu remplis. Tu as le paquet de céréales x10, à chaque fois x10, 10 boîtes de sel. Des tomates en réserve, tu remplis. Bon, après, tu vas te plaindre. Mais je ne sais pas quoi prier, je n'ai pas envie de prier, mais c'est normal, tu as tout. Tu as fait en sorte que tu ne manques de rien, parce que tu as fait en sorte que tu sois ta propre sécurité. C'est normal que ta foi disparaisse. Je ne suis pas en train d'encourager le manque d'approvisionnement ou de prévision. Je suis en train de dire que nous ne devons pas avoir un schéma de vie qui nous pousse à vouloir tout sécuriser par la chair. Nous devons avoir un schéma de vie où nous vivons par la conduite du Saint-Esprit qui nous poussera à nous approvisionner comme il faut et parfois à nous dépouiller. Donc tu as des choses que tu as prévues de manger demain. Tu dis aujourd'hui, suffira pour lui-même. Je me dépouille, je donne à tel qui en a beaucoup plus besoin que moi. Nous avons besoin de vivre par l'Esprit. Et quelqu'un qui vit par l'Esprit sera conduit à vivre par la foi. C'est très important de faire ce choix-là. Un autre exemple, bien-aimé, nous retrouvons des gens qui disent, j'ai du mal à évangéliser. Mais c'est normal que tu aies du mal à évangéliser parce que tu n'as pas de l'amour pour les gens. Parce que dans ton choix de vie chrétienne, tu as choisi Dieu comme un ticket pour le ciel. Tu n'as pas choisi Dieu comme une nature, mais comme un ticket pour le ciel. C'est normal que, ayant assuré ton ticket, maintenant, tu commences à vouloir... Tu t'ennuies. Au lieu d'assurer ton... Au lieu de voir les choses du ciel, avoir de l'amour, être comme Dieu, tu te concentres sur ton ticket que tu as déjà. Tu viens dans la communion fraternelle, tu t'assures que à l'église ça va, mais tu ne penses pas aux gens qui se perdent parce qu'il y a un manque d'amour. C'est normal que quand il s'agit d'évangéliser, il y a des difficultés. Donc, quelle prière il faut faire à ce moment-là? Seigneur, donne-moi l'amour pour les gens. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? Seigneur, donne-moi la capacité de parler. Or, c'est la soif qui te manque. Ce n'est pas la capacité de parler qui te manque. C'est la soif qui te manque parce que tu vas réaliser que dans d'autres domaines, tu parles très bien. Tu t'exprimes. Mais quand il s'agit d'évangéliser, tu es bloqué. Parce que tu es bloqué parce que tu n'as pas faim. Le jour où tu auras faim de sauver les gens, ce blocage-là disparaîtra. Bien-aimé, nous devons prier pour la chose qu'il faut. Parce que les capacités, Dieu nous donne toujours. Il en a à disposition en grande quantité. C'est souvent les motivations qui manquent. C'est les objectifs qui nous manquent. Nous n'avons pas les bonnes motivations. Nous n'avons pas fait les bons choix. Si nous faisons les bons choix, les capacités viendront d'elles-mêmes parce que Dieu en a beaucoup. D'ailleurs, ce que Dieu craint, c'est qu'on n'utilise pas ses capacités et que ça nous détruise. C'est les choix qui nous manquent, c'est les objectifs qui nous manquent, c'est les motivations qui nous manquent. Si nous changeons de motivation, nous verrons la grâce de Dieu se manifester et les capacités seront là. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas envie de lire la parole. C'est normal pour eux parce que, surtout ceux qui disent, je connais ces versets-là déjà. Donc on lit un passage, dans sa tête il s'est dit, je connais ça. Pour lui, la parole est devenue quelque chose d'intellectuel. C'est normal qu'il n'en ait pas soif, parce que c'est normal aujourd'hui, bien-aimé, si on me parle de l'orthographe du mot Belgique, je connais déjà. Je n'ai pas besoin d'avoir des cours là-dessus. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me montre comment Belgique ça s'écrit. Je connais ça, c'est intellectuel. Mais la parole de Dieu n'est pas que des écrits. On utilise le français ou l'anglais pour l'écrire. Mais la parole de Dieu est vivante. Elle est une vraie nourriture. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, je connais le pain, je ne mange plus le pain. Donc, on connaît le pain, mais on mange toujours. On connaît les saucisses, mais nous mangeons toujours. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin, nous avons faim. Quand tu as faim, tu manges. Et c'est la même chose avec la parole. Même si tu connais un passage biblique, puisque la parole est une nourriture, si tu la conçois comme ça, tu auras faim de cette parole-là. Si tu ne la conçois pas comme nourriture, tu n'auras pas faim de cela. C'est comme quand tu arrives dans un pays où ils mangent des choses que dans ton pays d'origine, ça ne se mange pas. Tu n'auras pas faim de cela. Tu verras tout le monde courir après ça, mais toi, ça ne te dit rien du tout. Je me souviens quand nous, on est arrivés ici voir les gens courir après le camembert, mais toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait qu'il court après ça, mais ça sent même mauvais. Tu n'as pas faim de ça, parce que tu ne considères pas ça comme nourriture. Et c'est la même chose avec la parole. Si tu ne considères pas la parole de Dieu comme nourriture, dont tu as besoin chaque jour. Si tu ne considères pas la parole de Dieu comme puissante, vivante, transformant les choses, tu n'auras pas faim de ça. On a faim des choses dont on reconnaît l'utilité. Si on ne reconnaît pas vraiment au profond de soi l'utilité, on n'aura pas faim. Donc au lieu de prier seulement, Seigneur, Seigneur, je veux lire la parole, c'est comme si tu veux juste être un bon chrétien en lisant la parole. Demande au Seigneur de reconnaître la parole comme étant sa parole puissante, pleine de vérité, pleine d'efficacité, une vraie nourriture pour ta vie, une vraie prophétie pour aujourd'hui. Tu vas lire en disant « Dieu me parle ». Tu ne vas pas lire comme un intellectuel qui lit un livre. Tu vas lire en disant « Dieu me parle ». C'est important, bien-aimé, de changer de motivation, de changer des objectifs. Et c'est ainsi que la faim et la soif viendront. Et tu ne te plaindras plus. Ou quand il y a des plaintes, ça ne va pas durer. Vite, le Saint-Esprit se manifestera pour enlever cela. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Changer d'objectif. Changer de conception. Comme il vient de le dire, notre frère Paul, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la vérité, le salut, la transparence, la sincérité, la simplicité, l'enlèvement, le jugement dernier, l'évangélisation, ce sont les choses d'en haut. Le salut des âmes, ce sont les choses d'en haut. La ressemblance à Christ, ce sont les choses d'en haut. C'est ça que nous devons viser. Quelqu'un qui vise les choses d'en haut, lorsqu'on lui dira « tu es l'essentiel », il est tranquille parce qu'il a des objectifs célestes. Lorsqu'on lui dira « tu n'es plus pasteur », il est tranquille parce que ce qui l'intéresse, c'est la ressemblance à Christ. Ce n'est pas un poste de pasteur. Quelqu'un qui a les objectifs d'en haut sera véritablement heureux. Et le Seigneur sera toujours là pour renouveler dans la prière, dans les objets, ça s'appelle comment, dans les projets. Le Seigneur lui donnera des projets. Vous savez, les gens aujourd'hui vivent par les projets. Il y a des gens qui ont des projets qui vont durer. Vous savez, nous qui utilisons les autoroutes, il y a des autoroutes qui durent 3 ans pour être achevées. Ça dure 3 ans. Donc, un chef, je ne sais pas comment ça s'appelle, le responsable de la construction d'une telle œuvre, d'un tel ouvrage, mais pendant 3 ans, il est occupé. Et c'est ça qui va le faire vivre pendant 3 ans. Donc si on n'a pas de projet spirituel, le diable va nous distraire. Nous avons besoin de vivre selon les choses d'en haut, avec des projets spirituels. Il va nous distraire. Et si on a les mauvais projets spirituels, ça va être encore grave. Il faut avoir les bons projets spirituels. Servir Dieu gratuitement. Ça, c'est un bon projet spirituel. Mais quelqu'un qui veut servir Dieu en disant, je vais galérer 3 ans, mais après, ça sera la bénédiction. Mais donc, après les 3 ans, quand il ne va pas voir la bénédiction qu'il attend, il va la forcer. Il va commencer à mentir. Quelqu'un qui se dit, je sers Dieu dans le ménage, mais c'est en attendant que Dieu m'utilise dans la prédication. Mais si après 4 ans, Dieu ne l'utilise toujours pas dans la prédication, qu'est-ce qu'il va se dire? Dans cette église, on m'utilise. Je vais chercher un endroit où je peux parler de Dieu. Mais qui t'a interdit de parler de Dieu? Les bus sont là, les métros sont là, ta propre maison est là, les voisins sont là. En réalité, qu'est-ce que cette personne veut? Manger, utiliser le micro. Ce n'est même pas parler de Dieu, parce que parler de Dieu, il a tout le terrain. Le terrain est vide. Mais c'est le micro. Et c'est ça, les objectifs charnels. Mais quand on est dans les objectifs spirituels, on parle de Dieu au téléphone. On parle de Dieu partout. Parce qu'on est. Ce qui compte pour nous, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nous. Nous devons changer d'objectif. Nous devons prendre les projets de Dieu. C'est important. Ce qui a fait chuter beaucoup de gens, c'est qu'ils ont changé de projet, ils ont changé d'objectif. Ils ont repris l'homme ancien, ils ont repris le vieil homme. avec des convoitises trompeuses, comme notre frère Paul le dit. Revenons à l'homme nouveau, qui est Jésus, avec seul projet, le projet d'accomplir la volonté du Père. Dans Jean 4, on vient proposer la nourriture à Jésus. Il dit, je n'ai pas envie de manger. On dit, mais qu'est-ce que tu as mangé? Il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne comprenez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça la nourriture que Jésus-Christ leur a présentée, c'est de faire la volonté de Dieu. Et quand on est dans cette nourriture, bien-aimé, c'est normal. Vous allez vous rendre compte, vous aurez envie de prier. Même quand vous n'avez pas décidé. Mais le fait que cette journée-là, vous voulez la passer selon la volonté de Dieu, vous allez vivre des événements qui vont vous pousser à prier. Parce que vous voulez vous maintenir dans la volonté de Dieu. Vous allez vivre des luttes qui vont vous pousser à lire la parole, à vérifier. C'est les projets du Seigneur vont te faire vivre dans sa logique, vont te faire vivre une vie chrétienne remplie et heureuse. Beaucoup d'entre nous avons besoin de revenir à ces projets-là. Quels sont les projets de Dieu? Le projet de Dieu, c'est la simplicité. Le projet de Dieu, c'est qu'on s'offre en offrande. Le projet de Dieu, c'est... Les deux commandements qu'il nous a laissés. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le projet de Dieu. Quand tu es dans ce projet-là, bien-aimé, tu ne te fais pas voir. Tu ne te fais pas voir par l'argent. Tu ne te fais pas voir par la famille. Tu ne te fais pas voir par le mensonge. Parce que le projet de Dieu, c'est que tu sois pur. Tu es dans ce projet-là. Tu ne te fais pas voir par l'orgueil. Par la logique d'élévation. Et le Seigneur, surtout, ce qui est agréable, c'est que le Seigneur va te surprendre. Tu vas vivre le fait que Dieu est le berger. Il va vraiment s'occuper de toi. Parce que beaucoup sont aussi fatigués parce que ils ne réalisent pas que Dieu s'occupe d'eux. Ou alors, dans leur comportement, ils rejettent le côté berger de Dieu. Ils veulent faire par eux-mêmes. Mais ceux qui acceptent de s'humilier vivent réellement le côté berger de Dieu. Tu seras hyper étonné de ce que tu es vraiment un enfant entre les bras, dans les bras d'un papa. Pourquoi nous ne vivons pas cela? Parce que nous refusons de nous dépouiller de l'homme ancien. L'homme ancien, c'est l'homme qui contrôlait tout. L'homme qui voulait réussir. L'homme qui voulait tout encadrer. L'homme qui voulait... tout gérer. L'homme qui voulait réussir par sa beauté, par sa force, par son intelligence. Mais l'homme nouveau, c'est celui qui s'abandonne entre les mains de l'Éternel et qui n'a pas honte d'être appelé enfant de Dieu, qui n'a pas honte qu'on s'occupe de lui comme d'un enfant. C'est ça l'homme nouveau, qui ne compte pas sur sa force, mais qui compte sur Dieu. Et bien d'entre nous, nous souffrons parce que Dieu ne s'occupe pas de nous. Vous savez, quand tu es dans une maison où on a tout fait, tu es heureux. On a lavé la chambre pour toi, on a repassé pour toi, on a tout fait pour toi, tu es heureux. Et c'est ce que sont les enfants de Dieu qui acceptent de vivre le projet de Dieu, qui acceptent de vivre l'homme nouveau. Ils se rendent compte que Dieu s'occupe de tout. Il a appris que, mais dans tel endroit, on parle du mal de toi. Mais c'est des gens qui sont dans l'homme nouveau. Ils bénissent les personnes qui parlent du mal. Et quelques temps après, ils apprennent qu'il y a eu confusion là-bas. Dieu s'occupe de tout. Dieu s'occupe de tout. Et quand Dieu s'occupe de tout, au lieu que tu sois malheureux comme beaucoup le sont, tu as plutôt peur. Tu dis que mais c'est trop facile. C'est trop beau. Oui, ça peut être trop beau chaque jour. Parce que tu te confies en l'Éternel. C'est pourquoi David insistait, heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Heureux ceux qui prennent les motivations de l'Éternel. Heureux ceux qui ont les projets de Dieu. Dépouillons-nous de l'homme ancien qui ne cherche que à satisfaire les convoitises humaines et à satisfaire les humains. Revêtons l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Voilà ce que Paul nous laisse comme héritage. cet homme nouveau, pour que ça ne reste pas un truc théorique, ça veut dire tout simplement, prenons les objectifs du Seigneur, prenons les projets du Seigneur, faisons de ces projets nos projets à nous. Prenons les attitudes du Seigneur et nous connaissons les commandements, nous connaissons les deux commandements principaux, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras le prochain, faisons de ça notre objectif. Faisons de l'évangélisation, pas notre objectif dans le sens où nous voulons forcément faire comme tout le monde, mais faisons de cela notre souci, le salut des âmes. Faisons de la communion fraternelle un point important de notre vie. Considérons les autres comme des frères et sœurs. Parce qu'on peut toujours venir dire, ben tiens, je vais passer par la communion fraternelle, mais juste comme un titre. Non, il faut vraiment que ce soit comme des frères et sœurs. Et là, tu auras soif de cette communion-là. Il faut que les objectifs, les projets, la mentalité changent. Eh bien, on aura tout le temps faim de la parole, tout le temps faim de la prière. Nous aurons faim de la justice. Nous aurons faim de la vérité. Nous aurons faim de toutes ces choses qui font la nourriture du chrétien et qui lui donne une bonne santé spirituelle. Et cette bonne santé spirituelle lui donne la joie et l'amène de plus en plus encore à servir Dieu. Voilà ce que je voulais nous partager afin que nous puissions persévérer dans ce voyage que nous menons sur terre en attendant que Christ, notre gloire, paraisse. Vous savez, ce verset-là d'Éphésiens, de Colossiens 3, 4, peut avoir un double sens. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça peut avoir le sens quand Christ reviendra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire, mais ça peut avoir aussi le sens que quand Christ en nous paraîtra clairement, nous vivrons la gloire de Dieu. Donc faisons de Christ notre objectif. Et quand il va paraître en nous, ça va s'accompagner de gloire en même temps. Et les pleurs vont cesser, ça sera la joie. Que Dieu soit béni, prions le Seigneur. Éternel, nous venons prier que tu nous aides à faire des choix qu'il faut, à choisir l'homme nouveau tel qu'il est présenté dans la parole. Dans Romains 12, dans Matthieu 5, l'homme nouveau est présenté là-bas, Seigneur. L'homme nouveau est présenté dans Colossiens 3. Il est présenté dans les commandements que le Seigneur nous a laissés. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. L'homme nouveau est présenté, Seigneur, à travers l'exemple de Jésus lui-même. Lorsque Pilate a vu Jésus, il a dit, voici l'homme. C'est lui l'homme nouveau. Aide-nous, Seigneur, à revêtir l'homme nouveau en nous dépouillant du vieil homme qui ne cherche qu'à satisfaire les égoïsmes. Nous voulons l'homme nouveau qui cherche à plaire à Dieu. Nous savons, Seigneur, qu'à partir de ce moment, ton esprit se mettra en branle, en marche, pour nous fortifier, agir, produire des fruits en abondance pour ta gloire. Ô Éternel, tu es notre gloire, c'est toi qui relèves notre tête. Viens, Seigneur, nous aider dans le nom de Jésus-Christ à choisir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté. Nous savons que c'est toi qui feras, parce que ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur.